Eh bien, bienvenue pour cette lecture pour vous. Cette fois-ci, on vous mène en bateau, il paraît. Enfin non, c'est pas le... On arrive après le bateau, en fait. Parce qu'on vous... on a choisi, finalement, de prendre le passage qui est plus particulièrement autour de Ninive, donc de prendre seulement les deux derniers chapitres du livre de Jonas. Alors, c'est une histoire qui est tout à fait sympathique. C'est vrai qu'on aime bien cette histoire de Jonas, alors je crois qu'on va avoir du plaisir à lire ce conte théologique, finalement, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait tellement de chrétiens, ni de juifs d'ailleurs, pour penser que c'est une histoire au sens littéral. Je ne pense pas tellement, mais bon, on ne sait jamais. Hein, ça... En tout cas, nous, en général, on le considère comme un conte théologique, et ce conte est tout à fait, dans son exagération même, tout à fait truculent, j'allais dire, et porteur de sens, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sens, même très, très évangélique. C'est vrai, d'ailleurs, ce passage, ce livre de Jonas est cité dans les évangiles, par la bouche même de Jésus. Et donc, c'est sans doute un des passages de l'Ancien Testament qui est particulièrement important, avec les psaumes, peut-être, avec Abraham, avec Ésaïe. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de très cité? Jérémie.
Babel.
Alors, il y a Babel cité dans les évangiles, c'est possible. Ah. Hein, non, je ne sais pas.
Oui. Sodome et Gomorre.
Sodome et Gomorre, oui, par contre.
Oui, absolument. On retrouve bien notre thème des cités bibliques. Ce qui est très intéressant, et nous allons nous y pencher tout particulièrement ce soir. D'abord, merci au Temple de l'Oratoire de nous recevoir. Merci, Marc, de nous accueillir avec ce beau temps. Encore 40 jours et la ville sera retournée. Ça n'est pas la première fois que nous voyons des villes pas forcément bien vues. Je vous rappelle que de Capharnaüm à Nazareth, de Jéricho à Babel et même à Jérusalem, nous n'avions pas toujours vu des villes qui se comportaient bien. Et je crois que Ninive, il faut se replacer dans le contexte historique et mythologique, enfin mythique, chez les Juifs, Ninive, c'est vraiment l'abomination de la désolation. Ninive, ce sont les Assyriens, ce sont les principaux ennemis. Ils ont envahi, détruit Jérusalem. C'est donc, de manière très symbolique, vraiment l'horreur absolue. Voilà. Et voilà que l'horreur absolue, eh bien, peut se trouver aussi sous le regard de Dieu. Donc je crois que ce qui sera très intéressant ce soir, c'est bien sûr de s'intéresser à ce Jonas qui était aussi un anti-héros, un prophète pas comme les autres, je dirais, mais également à ces gens de Ninive, à commencer par son roi et en allant jusqu'à ses animaux, hein, puisque tout le monde se convertit, à ces gens de Ninive qui sont un peu tous les mal vus de nos communautés, tous ceux que l'on peut mépriser, que l'on peut... honir, que l'on peut, tous les adversaires que l'on peut se trouver pour s'apercevoir que, ma foi, peut-être qu'il pleut et qu'il fait soleil chez eux aussi, et que peut-être que la miséricorde de Dieu s'en va par grâce sur des gens qui, à nos yeux, le méritent bien moins que nous. Alors, mais là j'ai déjà livré un certain nombre de clés, mais pour dire que voilà, ça vaut la peine que ce conte théologique, que ce récit qui fait à peine 2-3 pages dans nos Bibles, nous occupe une soirée, parce que, à sa manière, Ninive est un symbole aussi fort, je le disais, que Capharnaüm, Nazareth, Jéricho ou Babel. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par une lecture assez littéraire, et ensuite nous allons partir pour Ninive, qui, quelque part, représente l'Irak actuel. Donc, qui représente peut-être des choses importantes pour nous aujourd'hui. Ça, on le verra plus tard.
Alors, peut-être qu'il faut résumer les épisodes précédents, puisqu'on attaque directement au chapitre 3 et 4. Alors, Jonas, donc, c'est un prophète qui est d'Israël, qui est appelé par l'Éternel, qui lui dit « va, et va, j'allais dire, évangéliser Ninive ». Bon, c'est pas tout à fait évangéliser, c'est « va, bon, annoncer la parole à Ninive ». Jonas dit, il n'y a rien à faire, je ne vais pas vers là-bas. Il n'explique pas pourquoi. Pan, il fait le contraire. Il va prendre un bateau. Et sur le bateau, il y a une tempête terrible. Les marins se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire? Alors, ils interrogent chacun leur dieu, ça ne donne rien. Finalement, Jonas dit, c'est peut-être un peu de ma faute parce que je suis révolté contre mon Dieu. Alors, les marins se convertissent en une seule parole. Ils disent, mais voilà, l'Éternel, effectivement, c'est quand même pas très sympa de lui tourner le dos. Alors, Jonas dit, qu'à cela ne tienne, vous me jetez dans la mer, ça va résoudre le problème. Alors, il le jette dans la mer, tranquille, et il y a quand même un poisson, un grand poisson, une grande poissonnade, nous disent les traductions, qui attrape Jonas, et il reste 3 jours dans le ventre du poisson, au fond de la mer, un peu comme Pinocchio. Ou c'est plutôt l'inverse, je ne sais
oui,
plus.
Oui, on peut penser.
Je confirme, Pinocchio, c'était après. Et donc, je dis ça pour rire, parce que c'est vrai que l'outrance même, si vous voulez, du... Bon, déjà le prophète d'Israël qui tourne le dos, c'est déjà, si vous voulez, tout à fait baroque. Alors en plus, dans le ventre d'un poisson 3 jours, c'est bon, poisson. Dans le ventre du poisson, c'est Jonas qui commence à se convertir, il crie vers son Dieu. Et voilà, Dieu intervient et on en arrive donc à ce passage que nous allons entendre grâce à notre lectrice. Donc dans... La Bible des écrivains, la Bible Bayard, au chapitre 3 de Jonas. Jusqu'au bout. Mais le 3 et le 4.
Ah
ben, faut tout lire en fait. C'est quand même, c'est vite fait parce que c'est des lignes courtes.
Voici parole de Yahvé vers Yona une seconde fois pour dire. Lève-toi et va vers Ninive, la ville, la grande, et appelle sur elle ce grand appel que je dis vers toi. Et il se lève, Yona, et il va vers Ninive, selon la parole de Yahvé. Et Ninive est une grande ville, pour Dieu. Une marche de 3 jours. Et Yona commence à aller dans la ville. Le temps de sa marche, le temps d'une journée, il appelle, il dit... Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et les gens de Ninive sont attentifs au Dieu. Ils décrètent un jeûne. Ils s'habillent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La chose atteint le roi de Ninive. Il se lève de son trône, enlève son manteau, se recouvre d'un sac, s'assoit sur la cendre. Il fait crier et dire dans tout Ninive, au nom du roi et de ses grands, que l'homme et l'animal, le gros bétail et le petit bétail ne goûtent rien, ne paissent point, et d'eau qu'ils ne se désaltèrent pas. Qu'ils se recouvrent de sacs, l'homme et l'animal, qu'ils appellent vers le Dieu avec force, qu'ils s'en reviennent, chaque homme de son chemin du mal et de la violence qui est dans leur paume. Qui sait, il peut revenir, il peut regretter le Dieu. Il peut revenir de sa colère, et nous ne serons pas perdus. Et le Dieu voit leurs actions. Ils reviennent de leur chemin du mal, et le Dieu regrette le mal qu'il avait envisagé de leur faire. C'est décidé, il ne fera rien. Et cela lui fait mal à Yona, un grand mal, et cela le met en colère. Il se met à prier vers Yahweh. Il dit « De grâce, Yahweh !» Voici bien ma parole quand j'étais encore sur ma terre. C'est pour cela que j'avais pris la direction de l'Est, pour fuir à Tarsis, car je savais, tu es un Dieu généreux, soucieux de faire de la place à un autre que toi, le souffle patient qui comprend les écarts et revient sur sa décision de faire le mal. Et maintenant, Yahweh, s'il te plaît, prends ma vie, car désirable est ma mort plus que ma vie. Et Yahweh dit, est-il juste que tu t'affliges? Et Jonas sort de la ville, se tient à l'est de la ville, se fabrique pour lui, ici, un toit-abri. Il prend place en dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passera dans la ville. Et Yahweh invite un arbre, un kikayoun, un ricin, à croître vers le haut, au-dessus de la tête de Yona, pour être ombre sur sa tête, pour l'ombrer, le sauver de son mal. Et il se réjouit, Yona, de cet arbre, ce kikayon, d'une grande joie. Et Dieu invite un ver. À la montée du jour, le lendemain, il frappe l'arbre, le kikayon. Il se dessèche. Et voici qu'au lever du jour, Dieu invite un vent d'est, chaud, pesant. Le soleil frappe sur la tête de Yona. Il s'affaisse, presque évanoui. Il demande pour lui de mourir. Et il dit « Désirable ma mort, plus que ma vie. » Et Dieu dit à Yona « Est-il juste que tu t'affliges à propos de l'arbre du kikayon ?» Et il dit « Oui, il est juste que je m'afflige jusqu'à la mort. » Et Yahvé dit « Tu te soucies de l'arbre du kikayon pour lequel tu n'as fait aucun effort et que tu n'as pas fait grandir, qui fut en une nuit et en une nuit disparu. Et moi, je n'aurai pas souci de Ninoué, la ville, la grande, dans laquelle il y a plus de 12 myriades d'hommes qui ne connaissent pas entre leur droite et leur gauche, et un bétail considérable. »
Merci beaucoup pour cette belle lecture. Alors la parole de l'Éternel est adressée à Jonas, hein, à Jonas. Alors finalement déjà moi ce que ça m'inspire c'est que c'est la patience de Dieu, voyez, il passe et il repasse. C'est-à-dire que bon, on peut rater le coche, ben Dieu va passer et repasser. Ça me fait penser moi ça à ce passage pour moi fondamental de la brebis perdue. Voilà, il y a marqué que le berger il va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve, mais on n'imagine pas une seconde que Dieu va arrêter de la trouver ou ne la trouvera pas. Donc il y a vraiment cette patience de Dieu qui encore et encore repasse. Alors sinon, dans Jonas, il y a une difficulté dans le mot même de Jonas, parce que ça veut dire la colombe. Et dans le texte de la Bible, la colombe, c'est très positif, parce que c'est d'abord, on pense à la colombe de Noé, vous voyez, qui ramène le signe de la paix de Dieu, que Dieu a béni et qu'il pardonne et que voilà, on peut reprendre pied. Donc on pourrait dire, le Jonas qui porte la parole de Dieu, c'est une colombe pour les Ninivites et pour le monde. Mais Jonas, ça peut vouloir dire aussi autre chose, c'est de Yana, ça veut dire tromper ou léser. C'est quand même paradoxal. D'autant plus que ça, on ne l'a pas vu, mais c'est au début du chapitre 1. Le premier mot, il y a marqué Jonas, fils d'Amitai. Amitai, c'est le même mot que Emmet, la fidélité, la foi, finalement. Donc, Jonas qui trompe, qui lèse, et qui pourtant est fils de la fidélité, voilà, ça exprime un peu un résumé, finalement, de l'histoire de Jonas dans la première période. Ce Jonas qui est fils de Dieu, normalement porteur de la foi, de la fidélité de Dieu, et qui au contraire la trompe et la tord. Alors c'est un peu cette ambiguïté du personnage finalement. À mon avis, il ouvre déjà un peu comme une liberté, une porte, voilà, comme un questionnement qui nous est posé, un peu comme dans Babel qu'on avait vu il y a quelques fois, où Babel ça pouvait être une ville positive ou négative. Le plan des humains était soit un bon plan avec Dieu au centre et un plan d'union entre les hommes, soit une rébellion contre Dieu et une pensée unique. Donc là, c'est pareil, finalement. Le personnage même de Jonas, dans son côté paradoxal, nous laisse un peu le choix de deux voies. Et en vous entendant lire le texte de Jonas à la fin, on est comme une question, on dit mais l'histoire c'est pas possible, elle est pas finie cette histoire. Alors Jonas, si finalement il se convertit, c'est-à-dire il comprend que la compassion, la bonté de Dieu, et il comprend pourquoi Dieu a pardonné finalement, alors qu'il était fâché que Dieu pardonne. Et donc l'histoire n'est pas terminée, n'est pas finie. Et ça arrive souvent dans la Bible en fait. Et à chaque fois, à mon avis, ça veut dire, bah, écoutez, la suite de l'histoire, écrivez-la avec votre propre vie. Et si la fin n'est pas écrite, ben c'est parce que c'est à vous de décider, finalement. Écrivez vous-même la fin avec votre journée de demain. Voilà. Et donc, c'est le côté paradoxal de Jonas, cette ambiguïté de son nom. Et puis, la fin non écrite, déjà, je crois que ça fait de ce livre, eh bien, un petit peu un livre voilà, qui nous pose question, qui fait miroir sur notre, notre fidélité à Dieu et qui nous demande une réponse.
Alors je vais rebondir immédiatement, Marc, sur ce que tu viens de dire pour actualiser dans le temps liturgique. Je sais que vous, chers amis protestants, insistez moins sur le temps de carême, de la façon dont nous le traitons, comme ces 40 jours pour se convertir, si j'ose dire. Mais il me semble qu'un texte comme celui-là peut y trouver de grands échos. En fait, il y a l'idée, effectivement, de 40 jours qui nous sont laissés pour nous repentir. Si vous regardez de près, les chiffres sont tout à fait intéressants. Hein. Il y a 3 jours pour traverser cette ville, 3 jours dans la baleine, ou je ne sais quel animal mythique. Et il y a ces 40 jours qui sont un peu la traversée du désert. Et d'ailleurs, Ninive, pour un Jonas, c'est un désert épouvantable. C'est un no man's land. Voilà. C'est quelque chose à traverser. C'est d'ailleurs quelque chose de pas facile à traverser, puisqu'il a commencé par prendre exactement la tangente, c'est-à-dire à aller de l'autre côté. Et pourtant, le sens de cette traversée, on le trouve, eh bien, peut-être dans les 3 jours de la Passion et peut-être dans la mort et la résurrection du Christ. Je ne veux pas faire de la distorsion des textes bibliques pour en faire tout de suite une lecture christologique, mais quand même, il me semble que ce texte est révolutionnaire chez les prophètes, et je le dirais même dans l'Ancien Testament, dans la mesure où, un, c'est un anti-héros qui se trouve être le titulaire de ce livre, deux, on ne sait plus qui convertit qui, 3, c'est un Dieu de miséricorde, 4, c'est une miséricorde universelle qui ne saurait se résumer au peuple élu ou à cet Israël dont Jonas est le représentant et le défenseur. Je vous disais que Ninive étant considérée comme le Babel, le Babylone, l'Égypte et tout ce que vous trouverez dans les récits. Il me semble que dans ces récits, on peut donc trouver nous-mêmes dans notre vie quotidienne, avec nos abandons, j'allais dire même nos tangentes. Nous aussi, on va se cacher au fond d'un bateau pour pas être en mission, même si on va peut-être pas se laisser jeter à l'eau comme ça. Voilà. Et puis nous aussi, on se met en colère. On se met en colère parce que rien ne va droit dans ce récit. Au fond, comme tout le monde, on aimerait bien que les choses soient justes, selon notre justice ou notre justesse. C'est-à-dire que ceux qui font des efforts soient récompensés, que ceux qui sont dans le bon camp soient récompensés, mais pas ceux qui sont mal vus et ceux qui ne font pas les bonnes choses. Or, précisément, ce qui énerve terriblement ce Jonas, c'est que finalement, rien ne se passe comme il devrait se passer. Mais je crois qu'avec Dieu, c'est peut-être plus souvent qu'à son tour que c'est ainsi. Et c'est peut-être très bien ainsi. Personne ne pourrait parier que les Ninivites vont se convertir. Et sûrement pas Jonas. Et la fin, cette histoire du ricin est absolument extraordinaire. Parce qu'en fait, mine de rien, il est beaucoup question de mort. Vous verrez, si vous relisez les 4 petits chapitres, et ça on peut le faire ce soir avant de se coucher même, les 4 petits chapitres, il est question sans arrêt de vie et de mort. Et curieusement, ce prophète préfère la mort plutôt que d'accepter la conversion des autres ou le bonheur des autres. Et Dieu est extrêmement patient et pédagogue. Et voilà que ce petit ricin de rien du tout qu'il met sur la route de Jonas et qui lui fait un peu d'ombre, et qu'il volontairement fait disparaître pour qu'il s'énerve, qu'il dise « Ouais, où est passé ce ricin ?» etc. Pour la vie d'un ricin qui ne vaut quand même pas 120 000 hommes et femmes et enfants, eh bien Dieu lui dit « Et moi alors, comment je devrais réagir pour tous ces gens ?» Donc je crois qu'il y a une pédagogie, il y a un humour, il y a une ironie qui au fond sont de très jolies petites leçons pour nous en ces temps de carême. Je crois d'ailleurs qu'il nous interpelle, parce que est-ce que ce sont nos efforts particuliers? Est-ce que parce qu'on a bien respecté tel ou tel précepte? Ou est-ce que parce qu'on a fait une bonne action? Ou est-ce que... Bref, tout est chamboulé. Donc, au début, rien ne va comme il faut. À un moment, on a l'impression que les choses reprennent leur cours. Et puis, heureusement, on est tout aussi chamboulé à la fin. Et j'allais dire, on reste sur notre faim. Et c'est formidable, parce que justement, eh ben, c'est là que commence notre aventure de chrétien.
Voilà, voilà. Alors bon, c'est vrai que carême, c'est, je crois qu'effectivement, c'est une bonne pédagogie pour chercher à faire un pas de plus. Mais peut-être que nous, protestants, on est plus pécheurs, ou on a un sentiment peut-être face à face avec Dieu d'un plus grand péché, peut-être. Donc, en fait, nous, c'est tous les jours qu'on doit se convertir, pas seulement 40 jours par an. Mais donc, c'est vrai que c'est terrible. Donc, en fait, moi, je trouve que déjà, dans le verset 2, si vous voulez, « Lève-toi et va », déjà, ça, c'est très biblique, j'allais dire. Mais bon, puisqu'on est dans la Bible, c'est pas hyper étonnant, mais il y a déjà... On le retrouve dans l'Évangile. Hein. « Lève-toi et marche. »«
Prends ton brancard. »«
Lève-toi, prends ton lit et marche. »« Lève-toi et avance, ta foi t'a sauvé, finalement. » Donc, il y a vraiment... « Lève-toi », vous savez que c'est le verbe de la résurrection. Donc, c'est une résurrection aujourd'hui et maintenant. Et puis, la vie est cheminement, elle est envoi en mission, elle est dynamique. Or, on le voit, quand Jonas va moins bien, à la fin, bon, il est assis, il est arrêté, il est statique. Donc là, il y a une dynamique, voilà. Alors, il vaut mieux être en dynamique dans le bon sens, comme ici, que, comme avant, finalement, se lever pour partir dans le sens contraire. Mais à la limite, presque, il vaut mieux, finalement, se lever pour partir dans le sens contraire que d'être en panne, quelque part. Je ne sais pas très bien. C'est comme une mort, quoi. Là, lève-toi, c'est le verbe de la résurrection, puisqu'on est dans le temps de Pâques, de la Passion. C'est aussi un appel à sentir, se saisir, voilà, de cette résurrection de Dieu. La sortie du ventre de la baleine, on dirait en rigolant, mais du poisson, c'est pour être recraché sur la terre sèche, comme on l'a au premier verset. Enfin non, c'est juste le verset d'avant, peut-être, où il est vomi sur le sol. C'est déjà, si vous voulez, quelque chose comme un accouchement, peut-être, un accouchement hors du chaos, et puis cette parole qui nous ressuscite, qui nous met sur pied, qui nous envoie. Je crois que ça, c'est quand même... une parole forte qui nous parle aussi de la résurrection de la nôtre à la suite du Christ. Voilà. Mais c'est une résurrection, pas pour être en extase, mais une résurrection pour nous mettre en route. On le voit dans le péché de Jonas de tourner d'eau. C'est ce que tu disais, finalement, il y a 120 000 personnes qui... Il n'y a pas simplement Jonas qui, du coup, est prisonnier du chaos et s'embourbe dans les profondeurs, ou qui est irrité, qui est en colère, qui n'est pas heureux, qui n'est pas bien. Il y a aussi des conséquences importantes dans les autres. C'est-à-dire que voilà, lève-toi et va pour sauver le monde, j'allais dire. Ben oui, alors nous, c'est une personne peut-être vers qui nous sommes envoyés, mais c'est la même chose. Alors donc, je crois que dans ce récit de conversion, qui dit bien, comme tu le disais, la grâce, l'amour de Dieu inconditionnel, un peu comme dans l'Évangile, du coup, c'est là qu'est déplacé l'enjeu. C'est plus dans la crainte d'un Dieu méchant qui va nous foudroyer si nous faisons le mal. Oui. Dieu ne foudroie pas Jonas. Il le sauve sans cesse, au contraire. Il le sauve avec un poisson, il le sauve en étant présent à ses côtés dans le fond de la mer. Il le ressuscite encore pour faire de lui un serviteur utile. Donc il le sauve de bien des façons, mais... Donc l'enjeu, ce n'est pas l'amour de Dieu ou le pardon de Dieu ou la bienveillance de Dieu, ça ne marche plus comme ça, déjà dans Jonas, encore moins dans l'Évangile, bien sûr. Mais l'enjeu, c'est notre vie, bien sûr, notre bonne humeur, notre désir de vivre. On le voit, ce Jonas, comme tu le disais, qui déprime, qui veut mourir, parce qu'il est dans une telle futilité d'existence que tous les petits détails, les petites choses qui ne vont pas dans la vie le désespèrent. Alors qu'une vie enracinée dans le bien, dans la... voilà, bon, c'est plus solide, c'est enraciné dans le vrai, quoi. Et puis les 120 000 hommes et bêtes, qui sont donc innocents par définition, qui mourraient si Jonas ne fait rien. Il y a là du coup un enjeu important, mais pas dans le chantage de Dieu, pas dans un chantage à l'amour de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est très évangélique, je trouve. En même temps, tout est grâce, voilà. Et en même temps, bah, y a quand même un enjeu dans l'existence. Il y a quand même un choix important à faire de vie et de mort, mais pas, c'est pas comme un examen de passage. C'est simplement que quand on fait pas le bien, bah, y a la mort qui l'emporte. C'est ça, non ?
Oui, mais je vais un petit peu moduler ça. Tout est grâce, mais cela dit, il faut que Jonas finisse par aller à Ninive. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça, là. C'est quand même le fruit d'une prédication. Et là aussi, petite ironie, on n'a jamais vu une si courte prédication obtenir un tel résultat. Pas besoin de faire des prédications de 40 minutes. En une phrase, il y a 120 000 personnes qui se convertissent. Je pense que dans la Bible, c'est un exemple unique.
Comme une crêpe. Ben, à la Pentecôte, ça marche bien aussi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'y a pas tant de gens. Ça dépasse guère les 5 000.
3 à 5 000.
Alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on comprend bien que Jonas ait eu peur, au fond, d'aller affronter le danger, l'adversaire, l'ennemi. Et au fond, il n'avait pas tellement envie que ceux-là se convertissent.
Oui, c'est plutôt ça.
C'est-à-dire qu'ils deviennent comme lui, un craignant Dieu. Donc, c'est très ambigu. Et il suffit cependant qu'il parcourt la ville et qu'il proclame ce que le Seigneur lui a dit pour que cela fonctionne. Et ça, c'est assez admirable. Mais là aussi, j'allais dire, c'est le seul moment où les choses reprennent leur cours comme il se doit. Dans une série américaine, on dirait qu'on est dans le happy end. Mais ça, justement... ça ne satisfait pas Jonas. C'est à la fois trop facile pour lui et c'est à la fois trop simple. Jonas est le fruit d'une éducation. Et c'est là que l'histo-gréco-critique est intéressante. C'est que le milieu de rédaction de ce livre, dont il est très difficile, alors là, de déterminer entre l'exil, on va dire, et la période grecque. Mais en tout cas, c'est un récit relativement tardif, même si le personnage de Jonas est prétendu être du 8e siècle, le récit est beaucoup plus tardif. Ce qui est certain, c'est que l'auteur réagit à une radicalisation, probablement post-exilique, des Juifs, qui se sont mis à faire... de la religion, quelque chose d'extrêmement élitiste, réservé à quelques-uns, selon des règles très précises. Vous savez que lorsque le royaume du Nord a disparu, le contingent s'est beaucoup rapetissé, et du coup, il se passe comme il se passe souvent, il y a du fondamentalisme, je dirais, de l'intégrisme. Et l'auteur de Jonas est un anti-intégriste. C'est-à-dire qu'au fond, Jonas, il est prisonnier d'une éducation religieuse stricte. Et l'auteur, il l'en délivre. Et voilà pourquoi la fin n'est pas donnée. C'est que l'auteur n'est pas très sûr que cette vision de la religion l'emporte. Et c'est au fond quelque chose. Écoutez, lorsque nous sommes dans un débat sur la laïcité, et que nous voulons, mais je crois que nous sommes tout à fait là-dedans, et que nous voulons appliquer stricto sensu, des règles de droit qui ont été le fruit d'un travail des hommes, etc., après une réflexion. Eh bien, si l'on veut appliquer strictement, et j'allais dire radicalement les choses, cela ne peut correspondre à la réalité de la vie quotidienne. En réalité, il faut, et c'est la pédagogie de Jonas, il faut comprendre cela dans un universalisme, dans quelque chose qui nous dépasse, et accepter de faire ce que l'on n'aurait pas tendance à faire naturellement, etc., pour le bien-être de tous. Et je crois que cette histoire est extrêmement passionnante pour cela, parce qu'au sein même de la Bible, ce livre est assez dérangeant. Et si l'on regarde les réformes de Josias ou la volonté d'exclure, par exemple, les femmes non-juives, vous savez, les fameuses étrangères, etc., etc., eh bien, on voit bien que se confrontent des théologies fort différentes de l'élection, de l'amour de Dieu. Voilà. Et là, avec Jonas, on a un Dieu formidable. On a un Dieu formidable qui a de l'humour, qui est patient, qui a de la miséricorde et qui nous apprend bien des choses. Et on comprend bien que Jonas, au fond, Jonas, ce n'est pas en 3 jours qu'il peut tout comprendre, mais il a besoin de passer par un certain nombre d'épreuves. Il y a presque une épreuve initiatique dans son poisson, et puis après, il y a le contact avec la réalité. Et puis alors, il y a quelque chose de très amusant, c'est que quand tout cela se fait, Jonas part vers l'Est. Eh bien, il y en a un qui a fait pareil, à l'Est d'Éden. C'est notre ami Caïn. Et pourquoi ? Il était fâché, lui aussi. Et il est parti vers l'Est. Et évidemment, ça peut avoir un sens. Et je crois que notre auteur a truffé son récit d'allusions à la Genèse, au déluge, quand on parle des 40 jours, à notre ami Noé, à nos amis Moïse et à nos Égyptiens, à nos Babyloniens. Au fond, c'est un excellent petit résumé de l'histoire biblique, encore une fois. Et on peut comprendre pourquoi Jésus utilise de manière très pédagogique le signe de Jonas. Parce que c'est un signe parlant, parce que c'est une histoire qui traverse les siècles, parce que c'est d'ailleurs quelque chose qui, je le remarque, intrigue tout le monde. Si l'on dit qu'on va s'intéresser à Jonas et à Ninive, tout le monde va se dire « Ah tiens, c'est amusant, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut dire ?» Et bien sûr, tu parlais tout à l'heure des signes évangéliques. Prenez la traversée du lac de Génézareth par Jésus et ses disciples et vous serez tout à fait étonné des ressemblances que vous pourrez y trouver entre la tempête apaisée et Jonas et son poisson. Et je pense que, parce que nos évangélistes, eux aussi, comme nous, sont marqués par cette histoire. Alors l'origine de cette histoire, on ne saura jamais vraiment qui l'a écrite, quand, mais en tout cas, elle est reconnue, j'allais dire, dans toutes nos Bibles, hébraïques, protestantes, catholiques, tout ce que vous voudrez, et elle a sa place à part, parce qu'elle nous dit quelque chose autrement, avec un autre genre littéraire et avec un autre type de prophète.
Alors dans cette prédication formidable dont tu parlais, sa prédication formidable, c'est encore 40 jours et Ninive sera détruite, oui. Ou alors sera chamboulée.
Renversée.
Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu un jeu de mots aussi, c'est-à-dire que le verbe qui est utilisé là, hein, Raphak, ça peut vouloir dire effectivement détruit, hein, comme dans Sodome et Gomorre, qui sont détruits avec ce verbe-là. Mais ce verbe, ça veut dire aussi changer, en fait. Comme c'est le même verbe qui est utilisé, par exemple, pour le bâton de Moïse qui se transforme en serpent et inversement, ou bien dans 1 Samuel, par exemple, hein, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc, vous voyez, il y a des verbes, c'est un verbe qui est un peu ambigu, qui peut être soit négatif, soit beaucoup plus neutre, changé en, par exemple, voilà, être transformé. Ou alors, il y a dans un autre endroit, voilà, notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Dans Néhémie 13:2 ou dans Ésaïe, voilà, leur tristesse sera changée en joie et leur désolation en jour de fête. Dans Ésaïe 9:22. Donc, vous voyez, beaucoup d'endroits, en fait, où se changer est très positif. Donc, encore 40 jours et Ninive sera changée, ça peut vouloir dire détruite ou ça peut vouloir dire qu'elle se convertira. Parce que ça, c'était un des points, finalement, un peu peut-être important aussi du désespoir de Jonas, c'est que quand il va prêcher vers Ninive, il nous explique un peu après, là, mais... moi, je sais bien, hein, je savais que Dieu, de toute façon, il va pardonner. Alors, comme tu le disais, il n'a pas tellement envie que Dieu pardonne aux Ninivites, parce que c'est vraiment, comme souvent les gens nous disent, voilà, Dieu, le pardon de Dieu, il est universel. Alors, les gens nous disent, oui, mais enfin bon, il est vraiment grand méchant, j'ai pas envie tellement de les voir dans les couloirs du paradis. Et bah, alors là, c'est pareil, finalement, pour le juif, c'est vraiment épouvantable, donc on va quand même pas pardonner à ces gens-là, ça va pas. La deuxième raison, c'est que, on lui dit, voilà, annonce, sois un prophète de malheur pour Ninive. Annonce 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas dit, mais moi je le savais très bien, Dieu va encore pardonner une fois, et qui c'est qui va passer pour un guignol? C'est moi, finalement. Je vais passer pour un faux prophète, parce que ça ne sera pas le cas, voilà. Et donc, de quoi je vais avoir l'air? Alors, en fait, finalement, c'est là que Dieu est plutôt sympa, c'est qu'il va pouvoir changer sans que la prédication du départ soit fausse. Voilà, donc c'est, je trouve que c'est bien écrit, c'est assez, assez rigolo. Cette prédication à double entente, à double, un peu ambiguë, voilà. Alors c'est vrai que Ninive, ils se convertissent par crainte, grosso modo.
Tous les chemins mènent à Rome, là encore.
Ils se convertissent par crainte. Oui, alors ça, c'est ce qu'on a beaucoup dit, voilà, effectivement. Surtout dans le commentaire du contrainlé d'entrée, le commentaire de saint Augustin, du compelle intrare, disant... Augustin disait, ben oui, c'est-à-dire que voilà, on peut persécuter les gens, la persécution est efficace, par conséquent, c'est un bon instrument dans la main de l'Église pour convertir les gens de force. Et il avait remarqué que c'était efficace, effectivement, qu'à la première génération, les gens faisaient un peu la gueule et qu'ils se convertissaient de force, mais qu'à la longue, deuxième, troisième génération, ben, en fait, ça avait redressé, que le pli était pris, que c'était pas mal. Donc, en fait, c'était par efficacité qu'il disait ça. À mon avis, depuis le siècle des Lumières, en particulier le commentaire de Bèle, de Pierre Bèle, philosophe, qui est à l'origine des Lumières, qui reprend ce commentaire du contrainlé d'entrée. C'était d'ailleurs après la Saint-Barthélemy, en fait. Non, c'est pas après la Saint-Barthélemy, c'est après la révocation de l'édit de Nantes, où son frère avait été tué. Il dit, mais non, c'est pas possible, cette affaire. C'est contraire à l'amour de Dieu, donc on ne peut pas comprendre ce texte comme ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos églises, on n'utilise pas la menace pour remplir les bancs de l'église, alors que c'est très efficace, en fait. Hein. Ça s'appelle le complexe, le syndrome de Philippulus. Vous savez, c'est le... Dans le Tintin et l'île mystérieuse, il y a un prophète, vous savez, qui est habillé malheur, en un prophète de malheur, qui dit « Repentez-vous, car les catastrophes qui arrivent sont dues à la punition de Dieu, donc convertissez-vous, sinon ça sera un malheur. » Ça s'appelle, voilà, le syndrome de Philippulus depuis Tintin. Et c'est vrai que ça marche, c'est-à-dire que vous faites peur aux gens... Vous leur dites, donnez des sous à l'église, sinon vous irez en enfer, allez tous les dimanches au culte à 10h30, hein, sinon ça ne marche pas.
11h.
À 11h à Saint-Eustache, à la messe. Donc vous avez une demi-heure de sommeil en plus, donc c'est tout bénef, voilà. Donc voilà, donc ça marche bien, voilà. Ça marche bien. Mais c'est vrai que nous, on ne joue pas ce jeu-là. On ne joue plus ce jeu-là. On annonce la grâce de Dieu et puis voilà.
Alors Marc, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors il y a effectivement tout cet aspect-là. J'y ai vu un autre aspect qui est encore très actuel. C'est le problème de la fatalité. Et précisément, les Ninivites, c'est un peu le dieu fatalité face au dieu d'amour. C'est-à-dire que la fatalité voudrait que ce peuple méchant, cruel et damné, condamné, vraiment, hein, le reste. Eh bien, donc, en principe, ça doit échouer. Il n'y a aucune raison pour que 120 000 personnes, face à un petit bonhomme qui sort en plus tout mouillé d'un poisson, se convertissent. Enfin, franchement, il ne devait pas faire très peur, ce pauvre Jonas. Et pourtant, mais pourquoi ? Parce qu'il y a ce délai de 40 jours. Parce qu'il y a cette confiance qui leur est donné, que pourtant il semblerait qu'ils ne méritent pas. Autrement dit, alors que cette racaille devrait être condamnée au karcher, eh bien cette racaille change. Pourquoi ? Parce qu'on lui fait confiance. Et ça en est même, on voit bien, ça va du grand roi, vous voyez le beau roi, là, vous imaginez le beau roi de la tragédie, là, magnifique, enfin, ou de l'opéra. Et puis, ça va jusqu'aux chevaux. Ça va jusqu'aux animaux. Ce qui était d'ailleurs, qui correspondait d'ailleurs, puisque vous savez que chaque grande ville ou chaque grand peuple avait sa divinité, effectivement, il arrivait que bien des cultes soient rendus, y compris avec les animaux. Donc ça, c'est effectivement du parfait paganisme. parce que je ne crois pas qu'il existe des règles de conversion au judaïsme chez les animaux. Je ne crois pas, hein. Enfin, pas plus au christianisme, d'ailleurs. Mais,
il y a bien des bénédictions d'animaux domestiques.
Oui, c'est vrai.
Enfin, dans certaines églises catholiques.
Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais, oui, alors, pour vous dire que l'autre problème, c'est celui de la fatalité. Et c'est précisément de savoir le sens d'une vie où les choses seraient... et alors là, je vais renvoyer la balle à un autre problème, hein, où les choses seraient, en quelque sorte, on en a déjà parlé plusieurs fois... inscrite, j'allais dire, comme on dirait dans la Bible, dès avant notre naissance. Et au fond, il y aurait les élus et puis les pas élus. Et tu en as fort bien parlé la dernière fois. Et je crois qu'il faut toujours y revenir. Là, la prédestination n'est pas de l'ordre de Jonas. Car les Ninivites étaient destinés à être exclus de l'Éternel et des lois du Seigneur. Eh bien, contre toute attente, rien ne se passe comme prévu. Et les marins du bateau dans lequel Jonas a embarqué priaient tous leur divinité. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, au passage, inopérante. Mais le Jonas, qui était le seul qui pouvait prier la divinité opérante, vous pensez bien qu'il avait autre chose à faire puisqu'il était en train de le fuir en partant de l'autre côté. Donc, si vous voulez, ce que nous dit le récit, c'est que les dieux païens, ça vaut pas grand-chose, mais que les païens ne sont pas pour autant fatalement exclus du Dieu créateur. Autrement dit, que c'est bien le Dieu créateur du ciel et de la terre qui, d'ailleurs, comme Jésus, est maître des éléments, puisqu'il fait taire la mer quand il le veut, qu'il fait sortir une grosse bête marine comme il en a envie, et qu'il fait rentrer les hommes dedans, ou pousser des ricins, ou un petit ver, enfin bref, il est vraiment le Dieu créateur, maître de toute la création. Eh bien, ce Dieu-là peut s'intéresse à tout le genre humain, même si tout le genre humain ne s'intéresse pas à ce Dieu-là. Et ça, c'est une autre leçon qui me paraît être tout à fait contemporaine. En quelque sorte, il est clair que le dialogue s'adresse à tous les gentils de la terre, voilà, et pas simplement à tous les amis de Jonas. Et ça, c'est très intéressant aussi. Foin de la fatalité et vive la vie.
Alors, s'il y a une fatalité, je dirais que c'est celle du salut universel, parce que là, on retrouve un peu ma brebis perdue, c'est-à-dire que quelque part, les Ninivites, c'est vraiment la brebis la plus perdue des plus perdues. Et là, on le voyait, hein, c'est dans la conversion, là, il y a marqué « Chacun pour son compte, finalement, doit, selon l'ordre du roi, eh bien, vraiment se changer dans sa mauvaise voie. » Hein, et donc, il y a vraiment l'idée d'aller jusqu'à la dernière personne du peuple, de la ville la plus terrible et la plus horrible pour qu'elle puisse être sauvée. Alors, on voit ces Ninivites. Les 3 jours, moi, j'ai l'impression que 3 jours dans la Bible, c'est le temps un peu de l'expérience spirituelle, si vous voulez. On en a plusieurs exemples dans la Bible. Les 40 jours, c'est plutôt le temps des hommes, en fait. C'est plutôt comme les 40 ans dans le désert, hein, pour marcher encore. C'est les 40 ans de jeûne de Jésus, c'est les 40 jours de jeûne. C'est les 40 jours de Moïse... le temps que sur la montagne, ils puissent commencer à se faire place. Donc oui, à le temps de la gestation, le temps de la patience de Dieu. Et puis après, les Ninivites, eh bien, ils crurent à Dieu. Alors, ce qui peut-être me faisait dire que c'était quand même un peu de la crainte, c'est qu'il y a marqué Dieu, il n'y a pas marqué Yahvé, en fait. Les marins, ils se convertissent à l'Éternel, à Yahvé. Alors que eux, c'est à Dieu, donc c'est peut-être plus, je ne sais pas, hein, y a là un petit clin d'œil pour dire Dieu, c'est plutôt le Dieu fort, c'est Elohim, c'est d'ailleurs la même racine que Baal dans un sens, hein. C'est le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu créateur, le Dieu juge un peu, le Dieu dur. Hein. Alors ils crurent à Dieu, ils eurent foi, c'est pas une croyance au sens je crois qu'il existe, je ne crois pas qu'il existe. ils espèrent de ce côté-là, ils s'intéressent, ils cherchent. Alors, ils font un certain nombre de choses. Hein. Ils publièrent un jeûne. Alors, le jeûne, bon, ça, c'est plutôt pour les gens qui suivent le jeûne du carême, en fait. C'est vrai que ça peut être quoi, hein, c'est comment vous le comprenez, vous qui pratiquez ce jeûne, si je puis dire, c'est un temps peut-être...
C'est un effort personnel.
Un effort personnel, voilà, c'est un effort personnel, peut-être pour se recentrer un petit peu sur l'essentiel, hein.
Oui, là-dessus, je crois que c'est... je me souviens d'avoir fait une retraite en silence comme ça, et pour moi, c'est très difficile, comme pour tous les gens qui aiment bien parler. Et mon accompagnateur m'avait dit, mais le silence n'a aucun intérêt en soi. C'est parce que quand il y a le silence, la parole devient d'or. J'avais trouvé ça très agréable, parce qu'en fait, il m'avait expliqué, mais oui, mais quand on parle beaucoup, bon... On peut en laisser la moitié, au moins. Mais quand on a très peu d'occasion de parler, quand dans une journée, on vous accorde quelques minutes, et pas plus, ben, je peux vous dire que vous réfléchissez aux mots que vous allez prononcer et ils prennent d'autant plus de poids. Alors, je pense que dans l'idée de jeûne, etc., c'est de se rendre compte un peu de l'essentiel et d'abandonner un peu du superflu dont on est quand même un peu gavé tous les jours.
Et puis de se recentrer peut-être sur le spirituel. L'idée de se revêtir de sac, alors, c'est peut-être quoi ? L'inconfort, je pense, quand on s'habille de sac de patates, ça gratouille un peu le corps, c'est pas très agréable. Et puis c'est pas très non
c'est
plus,
pas très
c'est pas très noble, c'est pas très saillant. Donc il y a peut-être là encore l'idée de faire attention aux réalités vitales, à vraiment ce qui compte. Et puis sinon, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Ils invoquent Dieu.
Il y a la prière quand même. Hein, alors les choses parvinrent au roi de Ninive. Voilà, lui, il ôte son manteau, il s'assied, couvre d'un sac, il s'assied sur la cendre. Donc là, c'est un signe de deuil, un signe de repentance. Hein. Et il fait faire cette publication. Alors là, comme tu disais, un des plus grands au plus petit, et même le petit bétail et le grand bétail, les bœufs, les brebis, les poulets, doivent tous jeûner, ne pas boire d'eau, être couverts de sacs, et qu'ils prient, en fait, qu'ils crient avec force. Donc là, il y a finalement, on est de l'ordre de la religion, je dirais, de l'exercice spirituel personnel avec le jeûne et le sac. Je crois qu'effectivement... C'est pas que ce soit méritoire, à mon avis, si vous voulez, ces exercices, il faut le prendre comme des simples moyens, je crois, d'ouvrir notre vie à une place de Dieu et peut-être aussi une certaine disponibilité personnelle à changer. D'ailleurs, les deux points suivants, c'est la prière, même pour les bêtes, et puis c'est le changement d'attitude, hein, que chacun revienne sur leur mauvaise voie, sur les actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc il y a une ouverture, je crois, dans un exercice spirituel qui n'a aucun sens et qui n'a aucun intérêt en soi-même. Si vous voulez, Dieu n'a rien à faire qu'on soit habillé d'un sac à patates ou de la soie couleur cuisse de nymphe émue. C'est pas la question, c'est le rose. Non, mais tout d'un coup, je deviens poète, je sais pas, c'est le printemps, peut-être. Mais enfin, bref, les deux premiers, je crois que c'est de l'ordre de la religion, de l'exercice. Et puisque je parlais d'aller tous les dimanches à la messe à 11h à Saint-Eustache, ou à 10h30 à l'Oratoire du Loup, eh bien, c'est... je crois que même si la prédication est nulle et qu'on n'est pas content des chants, et puis que l'orgue ce jour-là est en panne, parce que c'est fragile, ces petites bêtes, rien que le fait d'être sorti chez soi le dimanche matin... Attends, dimanche matin, quoi, plutôt que de rester au lit, de se déplacer, d'aller dans un lieu un peu baroque, etc., il y a une assaise, il y a une place que l'on fait pour changer, pour s'ouvrir à Dieu, pour faire comme un petit peu d'espace en disant, ben voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose et que je vais, voilà. Et puis c'est aussi un petit temps pour se dire, ben voilà, où j'en suis, un petit temps pour faire le point, pour ce qu'il peut y avoir de pas trop bien dans mon passé, un petit miroir qui m'est... Prendre le temps de regarder dans le miroir, voilà. Donc là, je trouve que le petit résumé que donne le roi,
c'est pas mal,
c'est de l'ordre de la pratique, pratico-pratique, voilà. C'est pas pour gagner le pardon de Dieu. De toute façon, Dieu, quand il envoie Jonas, déjà, au départ, il avait une bienveillance et une bonne volonté vis-à-vis des Ninivites. Le projet de Dieu, c'était qu'il soit sauvé. Le projet de Dieu, c'est qu'il soit changé. Mais il y a l'effort nécessaire des Ninivites pour faire place à ça, Quelle que soit la raison qui font qu'il va finir par faire cette place, qu'elle soit pour la crainte de Dieu, ce qui n'est pas tout à fait à propos, bon, qu'importe, que ce soit par intérêt, par amour de Dieu, par... j'ai bien aimé ce que tu disais sur la confiance, oui, ce Dieu qui fait confiance, qu'on leur annonce en disant, ben voilà, vous avez encore le temps de la patience de Dieu, le temps de changer, la possibilité de vous améliorer, tout ça. Et bien voilà, tout d'un coup, ils font cet effort personnel pour s'ouvrir à Dieu, et je crois que oui, c'est faire place à Dieu, voilà, à ce Dieu qui respecte notre liberté.
Alors, il y a un petit élément quand même sur lequel on pourrait, là encore, discuter. C'est précisément, moi, je pense quand même que même Dieu, il change. Ah oui? Je veux dire par là qu'il est quand même question, au début, il y a la parole de Yahvé adressée donc à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et là, c'est Dieu face à Sodome et Gomorre. C'est Dieu, quand même, avec cette volonté de renverser ces impies.
Il n'y a pas marqué.
Lorsqu'on dit, la dernière fois qu'il a dit la méchanceté est montée jusqu'à moi, c'était l'Égypte. Hein, et il leur a quand même fait quelques misères. Et il est quand même dit que, au verset 10, que Dieu vit leur réaction aussi. Lui aussi, revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé ? Il ne le fit pas. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que Dieu se convertit, mais ce que je veux dire quand même, c'est que Dieu n'est pas complètement immuable dans cette histoire. Il n'est pas, comment dire, toi tu penses que... Je veux bien reconnaître avec Jonas que au départ, il va pour aller annoncer à des gens qui vont se faire massacrer. Et je peux comprendre que face à 120 000 hommes qui sont cruels, etc., il est un peu la trouille. Et il y a quand même une évolution de Dieu, parce qu'il laisse du temps pour ça, mais il change d'avis. Il change d'avis tant et si bien d'ailleurs que Jonas se fâche en disant « Mais moi, je ne comprends plus rien. Alors, tu me dis de me lever pour aller crier à ces infidèles qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir et qu'ils vont finir comme Sodome, Gomorre et autres Babylone. » Et voilà que tu les laisses faire, etc. Donc je pense que là, il y aurait quelque chose à regarder sur le déplacement de Dieu.
Oui. Alors là, effectivement, il y a une conversion de Dieu en chemin, c'est clair, et même c'est littéralement le cas, car les verbes utilisés, c'est ceux de la conversion et du changement. Néanmoins, quand ils envoient, au début du chapitre 1, quand Dieu envoie Jonas vers Ninive, c'est dans l'intention, quand même, qu'ils améliorent et qu'ils changent. À mon avis, c'est quand même le rôle du prophète, c'est de prêcher la conversion, oui. De prêcher. Et les prophètes de malheur, tous, dans la Bible, disent « Voilà, c'est une catastrophe, de la part de Dieu, je vous dis que je vais écrabouiller tout le monde, qui va écrabouiller tout le monde parce que votre comportement est inacceptable. » Et finalement, les gens changent un petit peu, et puis finalement, tout se termine bien mieux que ce qui était annoncé au début. D'ailleurs, c'est ça qui fâche un peu Jonas. Mais pour la conversion, c'est vrai qu'au verset 9, hein, il y a marqué « qui sait ?» Il y a cette place pour la liberté de Dieu, voilà. Peut-être, c'est possible. C'est un point d'interrogation. Peut-être, qui sait si Dieu ne reviendra pas. Mais là, ce verbe « revenir »,« changer hein, », c'est le verbe de la conversion, c'est « chouve ». Littéralement, explicitement, dans ce verset 9, c'est le verbe de la conversion. Voilà. Et l'autre verbe, est-ce que Dieu ne va pas se repentir ? C'est naram. Naram, c'est le verbe, là aussi, du changement, et c'est le verbe de la consolation, c'est-à-dire du changement d'humeur, finalement. Hein. Et finalement, Dieu vit qu'ils agissaient et qu'ils revenaient, donc ils se convertissaient avec ce même chouve de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit, là c'est encore Naham, c'est le changement d'humeur. C'est le changement d'humeur, là c'est pas vraiment que ce soit une conversion de Dieu, c'est plutôt un changement d'humeur. Il passe de la colère, à finalement une bienveillance, un pardon, quelque chose comme ça. C'est pas littéralement une conversion, c'est pas tout à fait. Il se pose la question au début, qui sait si Dieu ne va pas se convertir ? Finalement, c'est pas vraiment qu'ils se convertissent au sens où les Ninivites se convertissent.
Oui.
Mais il va changer d'humeur quand même. Oui, c'est pas un Dieu qui est insensible que nous avons là, contrairement aux dieux qui sont en bois finalement, aux idoles, qui sont, elles, impassibles. Elles savent tout de toute éternité, et puis rien ne les atteint finalement. Non, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se laisse surprendre, un Dieu qui ne sait pas par avance, un Dieu qui espère, qui s'étonne. Il dit, quoi ? Mon prophète qui va dans le mauvais sens ? Oh là là là, mais je n'aurais jamais pensé ça. Et voilà, qui va. Ce Dieu qui prie l'homme, disant, il prie les Ninivites, il dit, mais écoutez, changez, vous êtes en train d'aller vers la mort, quoi. Et puis, voilà, il est en colère, il dit, mais c'est pas possible, voilà, il faut changer. Et puis finalement, Dieu passe de la colère à la joie, finalement. C'est ça, peut-être, cette conversion de Dieu.
Oui, effectivement, quand le repentir est appliqué à Dieu dans la Bible, ce n'est pas le même mouvement que notre repentir. Mais il y a un changement, en effet, je pensais en t'écoutant au Dieu d'Abraham, lorsqu'il y a cette négociation pour sauver ne serait-ce que pour 10 hommes, Sodome et Gomorre.
Oui, Dieu évolue, oui.
Dieu évolue, et également Dieu face à Noé, cette colère-là, et puis, bon, allez, je ne le ferai plus. Bon, ça va, on fait une alliance, je me mettrai plus en colère. Il y a quand même l'idée, je dirais pas qu'on peut changer les décisions divines, mais que notre attitude n'est pas neutre. C'est-à-dire que, et je crois que les psaumes dans leur ensemble, nous le disent, Dieu a pitié de ceux qui lui demandent, du pauvre qui crie, de... Parce que, et là, on en est à un autre sujet encore. Toutes nos prières de demande, toutes nos supplications, toutes nos intentions de prière. Est-ce que nous pensons que Dieu reste impassible et immuable ? Alors, bien sûr, on pense qu'il ne va pas intervenir pour arrêter Gbagbo ou pour faire tomber Kadhafi ou je ne sais quoi. Mais cependant, il y a quand même l'idée que notre prière n'est pas totalement vaine. Alors, tu vois, c'est dans ce sens-là.
Mais ça, je ne sais pas comment tu t'imagines que Dieu va changer. Effectivement, tu dis, voilà, Seigneur, il y a la faim dans le monde, je pense aux Africains qui ont faim. Comment on pense que ça peut marcher ? Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on imagine à travers cette prière-là ? Que Dieu ne le savait pas ? Que Dieu attend qu'il y ait des gens qui prient assez fort, assez longtemps, assez nombreux pour qu'il décide d'intervenir ? Non, mais c'est fou. Je crois que cette prière, d'abord, je crois, qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il devrait faire ? Donc déjà, c'est une prière qui est dangereuse, spirituellement, s'entend. Deuxièmement, c'est une prière, la prière, c'est-à-dire, c'est pas donner des bonnes idées ou des ordres à Dieu, c'est placer sa vie devant Dieu et le laisser répondre. Donc on pourrait dire, plutôt que prier pour dire « Hé Dieu, il faut que tu t'occupes des Africains qui meurent de faim ou qui se tapent dessus », se dire « Seigneur, je suis préoccupé par telle chose, fais au mieux ». Et à ce moment-là, c'est quand même une prière où, au contraire, on cherche à savoir et à lire quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu, en particulier en ce qui me concerne. Et c'est bien le problème de Jonas. Savoir en quoi est-ce que Dieu me demande de convertir, de me convertir, moi. Pour ce qui est de la conversion de Gbagbo ou de je ne sais pas qui est d'ailleurs un fanatique plus ou moins protestant d'ailleurs, il a illuminé avec un gourou qui lui dit « Tu es le Messie, tu es là pour sauver, donc garde ton poste ». Lui, il se dit « Mince, mais il faut que je tienne bon, je suis le Messie pour sauver mon peuple ». Donc c'est un problème, effectivement. Ce n'est pas qu'un problème, si vous voulez, politique, c'est aussi un problème de théologie. Alors on pourrait dire « Voilà, qu'est-ce qu'attend Dieu pour convertir Gbagbo ?» Mais il y travaille tous les jours, il n'a pas besoin que je lui dise qui devrait s'en occuper, je veux dire, c'est quand même qui je suis par rapport à Dieu quand même. C'est important, ça, spirituellement, de voir comment on se place. Donc, je crois que oui, la prière, c'est pas pour convertir Dieu, c'est pour s'ouvrir à ce Dieu qui est source de résurrection et de conversion, ce Dieu qui va pouvoir faire que je pourrai me lever et aller vers ceux vers qui Dieu m'envoie, C'est plutôt ça, je crois, l'objet de la prière de la prière universelle, la prière d'intercession.
Oui. Non ? Oui, oui, mais je crois que c'est un des débats qui nous anime depuis le début, quels que soient les textes que l'on regarde, parce qu'on revient toujours à ces sujets essentiels. Et je crois que ce sont des sujets un peu comme Jonas qui n'ont pas de fin. C'est-à-dire que la fin de ces sujets et la réponse nous appartient. Parce que malgré tout, quand même, frappez, on vous ouvrira. Priez sans cesse. Les interpellations sont assez nombreuses. Alors, bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il ne s'agit pas d'aller dire à Dieu ce qu'il a à faire, ni à lui faire savoir ce qu'il ne saurait pas. En revanche, il y a cette communion, ne serait-ce que ce déplacement personnel. Et je crois que c'est intéressant d'aller regarder la prière de Jonas. Elle est vraiment, quand on regarde la façon dont Jonas prie son Dieu, elle est vraiment étonnante. La première fois, c'est dans son poisson. Là, il y a une...
très belle prière.
Très, très belle prière, absolument magnifique. Et puis, celle qu'on a là, elle est vraiment très étonnante, parce que c'est quasiment du suicide assisté. Regardez ça. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre.
C'est 4-3, oui.
Oui. Et puis, à la fin, donc il se fâche à mort. Mieux vaut, il redit pareil, hein. Jonas demandait à mourir, il disait « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». C'est étonnant. Le même homme qui prononce cette prière que je peux retrouver, qui est vraiment... Je crois qu'elle mérite qu'on la lise, effectivement, la prière du poisson.
Oui, c'est la prière du fond de la mer, parce qu'effectivement, même au fin fond du chaos...
La prière du verset 2 est assez superbe.
Chapitre 2. Donc Jonas remarque qu'il est,
Vas-y.
Même au plus profond de la mer, qu'il est encore finalement auprès de Dieu, voilà. Et Jonas prie vers Yahvé, son Dieu, depuis les entrailles du poisson, et il dit « J'appelle dans l'oppression vers Yahvé, et il me répond. Du ventre du Shéol, je crie, tu entends ma voix. Tu me jettes dans un gouffre au cœur des mers, et un fleuve m'entoure, tous les flots brisants et toutes les vagues passent sur moi. Et je me dis, je suis renvoyé loin de tes yeux, et pourtant j'ai continué à regarder vers le palais de ta sainteté. » Elle m'entoure, les eaux jusqu'à la gorge, l'abîme m'encercle, les algues s'enroulent comme un turban autour de ma tête. Aux extrémités des montagnes, je descends. La terre, ses verrous se referment sur moi. Aux extrémités du temps, mais de la destruction, tu me fais remonter ma vie. Yahvé, mon Dieu, quand ma vie s'enveloppe sur moi, je me souviens de Yahvé et ma prière va vers toi, vers le palais de ta sainteté. Ceux qui s'attachent au souffle des vanités peuvent-ils abandonner leurs liens incestueux ? À moi, par ma voix, un merci. Mon sacrifice pour toi, le respect de mes vœux. À Yahvé, la délivrance. Et Yahvé dit au poisson, et il vomit Jonas, et Jonas fut sur la terre ferme.
Jolie prière et joli...
Exaucement ? Oui, exaucement.
Donc, pour dire que c'est un sujet inépuisable, hein, que l'on peut et sur lequel on se retrouve évidemment pour l'essentiel, mais inépuisable. Voilà, la prière dans tous les cas et la réaction, on va dire, la réaction ou l'entente. Oui, je crois que l'image la plus belle, c'est on frappe et on vous ouvre. C'est l'idée que, voilà, que par la prière, on se parle, on s'entend, on se comprend. Et j'allais dire, Jonas, il n'y a que dans ces moments-là où ça y est, il a compris. Ça y est, c'est bon. Alors, comme souvent, c'est dans les moments de détresse, hein. C'est sûr que, bon, j'ai jamais été enfermé 3 jours dans un poisson, mais ça ne doit pas être très agréable, hein. Surtout que oui, il ne doit pas y avoir beaucoup de lumière, ça ne doit pas sentir très bon, et puis on doit se demander comment on va finir. Donc voilà, donc beaucoup de leçons, hein, pour nos existences, et on s'y reconnaît tous, hein. On s'est tous retrouvés plus ou moins dans ce poisson, peut-être pas 3 jours, parfois plus longtemps. Mais voilà, et cette réaction de Jonas est très humaine et très belle, mais à un moment, vous voyez, il se fâche à mort, comme il dit. Et il ose dire, allez, maintenant j'en ai marre, ôte-moi la vie. Et on voit bien que le Seigneur lui réapprend que, ben non, ça n'en vaut pas la peine. Au contraire, ce qui pour toi te fâche à mort, et alors que devant un petit ricin mangé par un ver une nuit, tu te mets dans tous tes états, mais moi alors, pour toute l'humanité, dans quel état je serais ? Enfin, il y a beaucoup de leçons hein, dans cette petite histoire.
Alors, ce qui fâche Jonas, voilà, ce qui le conduit à prier faux, j'allais dire, parce que demander à Dieu la mort, c'est une prière mauvaise. Donc ça, je dirais la première chose, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a des prières qui sont meilleures que d'autres, mais qu'on a le droit de prier faux, et qu'en définitive, eh bien, Dieu, voilà, l'essentiel, c'est de prier. On le voit d'ailleurs, hein, c'est que Jésus dit, voilà, si vous demandez quel père, si on le demande un pain, quel père donnera un caillou ? Et Jésus, il dit ensuite, quand bien plus même Dieu vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc en fait, je crois qu'on a le droit de demander des pierres à Dieu, et Dieu donnera des pains. Donc il y a pas de, finalement, il vaut mieux prier une bonne prière qu'une mauvaise, mais même une mauvaise prière, bah, c'est déjà ça.
Déjà, on se tourne vers Dieu.
Déjà, on se tourne vers Dieu, puis à ce moment-là, Dieu peut rectifier comme il l'entend. C'est ce qu'il va faire là, finalement. Mm. Alors finalement, qu'est-ce qui fâchait Jonas ? Eh bien, c'était... En fait, il cite Moïse, une confession de foi de Moïse. Hein. « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. » C'est magnifique, c'est une confession de foi de Moïse. Hein. Il découvre ça en voyant passer Dieu de dos. Comme tu disais, ce texte est truffé de citations de l'histoire du peuple hébreu. Alors là, c'est assez beau, compatissant, c'est qu'il fait grâce. Et la grâce, effectivement, c'est ça qui choque Jonas, c'est que la grâce, c'est injuste. On pardonne aux coupables. On pardonne aux coupables, c'est pas équitable. Et par définition, la grâce présidentielle, c'est pas d'amnistier ou de dire, ben non, il était innocent, non. La grâce présidentielle, ça reste de ces époques-là, je dirais, complètement néolithique. C'est l'arbitraire, disant, ben voilà, moi, je suis président, et ben, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et tel prisonnier, il a beau avoir tué père et mère, eh bien, si je veux le voir dehors, il est dehors. Ça ne le rend pas innocent, mais c'est la grâce, l'arbitraire de la grâce.
C'est tout à fait Barabbas face à Pilate. Hein. C'est exactement ça. Alors là, pour le coup...
Alors, on libère qui on veut. On peut libérer un assassin et tuer un coupable. C'est plus gênant, quand même, dans France. C'est
un innocent.
Le président, un innocent. Tuer un coupable, on n'a plus le droit non plus. Mais,
non.
Mais enfin, bon... Là, libérer Barabbas, le président de la République française, il peut dire bah, il est innocent, mais enfin bon, on va le mettre en prison quand même, ça lui fera les pieds. Le président n'a pas cette liberté normalement. Alors, miséricordieux, ça, c'est la tendresse maternelle. Car ce mot-là, cet mot hein, de haram, c'est le mot de l'utérus. Cette miséricorde, c'est la tendresse maternelle de Dieu, c'est un amour... Voilà, un amour à la fois qui est comme un utérus, c'est-à-dire qui porte la vie, quoi, hein, qui donne la vie, mais en même temps, c'est l'amour vraiment du côté féminin de Dieu. Lent à la colère, c'est cette patience qu'on a vue dans les 40 jours, riche en bonté, bonté de toutes sortes, voilà, et qui change, qui se repent du mal. Donc ça, c'est vrai que du coup, Jonas, il trouve que c'est pas juste, voilà, qu'on pardonne aux coupables. Mais la grâce, c'est ça. C'est la grâce, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on trouve des chrétiens qui disent que voilà, le sens de la croix du Christ, c'est qu'il paye la note pour nous. Et donc, que Dieu, finalement, peut nous pardonner parce que la note a été payée. Mais c'est fou. C'est-à-dire que là, on régresse, si vous voulez, à une théologie qui est largement plus ancienne que ça. C'est-à-dire une théologie où Dieu est lié par la règle du donnant-donnant. Le coupable, quelqu'un doit payer, quoi. Il y a une note à payer. Mais on n'est plus dans cette... On n'est plus dans cette théologie-là depuis bien, bien, bien longtemps, l'Ancien Testament, même déjà, si vous voulez, même ici, il n'est plus cette question-là. Et on voit le sac et la cendre, c'est plutôt pour faire place à la grâce de Dieu, à sa bénédiction, mais c'est pas pour, c'est pas des flagellations qui servent pour payer pour les fautes. La grâce, par définition, c'est inéquitable. C'est un pardon gratuit de la bienveillance de Dieu qui accepte, qui ne désire qu'une chose, c'est que le pécheur change et qu'il vive. Mais il n'y a pas besoin de faire souffrir quelqu'un pour ça, encore moins qu'un innocent souffre à la place des coupables. C'est absolument dégueulasse comme éthique, encore plus comme théologie. Le problème, si vous voulez, c'est pas qu'un problème de théologie, encore ça, bon Dieu a bon dos, on lui a mis tout, déjà tout collé sur le dos, mais c'est un problème d'éthique aussi. Si on rentre dans cette éthique-là du donnant-donnant, etc., eh bien, quelqu'un qui a tué un enfant, je veux dire, que faut-il que la société fasse pour faire payer un crime pareil ? Oui, c'est le vrai problème. C'est qu'à ce moment-là, il faut absolument que quelqu'un paye la note. Alors, si par hasard, le coupable ne peut pas payer cette note, il faut, bon, tant pis, on va prendre un innocent et on va le faire souffrir à la place du coupable. Et puis, comme ça, l'équilibre sera... C'est cette éthique-là qui est projetée par cette histoire de rachat des fautes du Christ sur la croix. Cette théologie, cette compréhension du salut sur la croix, elle date en fait surtout, bon, on peut en trouver des traces dans la Bible, c'est surtout Anselme de Canterbury, donc, qui a repris tout simplement l'idée de la justice féodale, voilà, et qui l'a appliquée pour expliquer à des gens qui étaient imprégnés de cette justice-là que finalement la note est réglée, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent y aller de bon cœur, en confiance sur l'amour de Dieu, parce que la note était réglée. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout une théologie biblique. Même l'histoire du bouc émissaire, finalement, dans l'Ancien Testament, ça ne marche pas sur ce modèle-là, si vous voulez. C'est un symbole pour dire voilà, que notre péché est brûlé. Mais c'est pas plus, voilà. Donc je crois que déjà dans Jonas, on n'est pas dans l'idée de payer une rançon à un Dieu qui est impitoyable. Absolument pas. On est déjà dans une toute autre optique, celle de la grâce de Dieu qui attend la conversion, le changement du pécheur.
Oui, et je crois que dans un autre ordre d'idée, moins important, il y a aussi la proportionnalité. Voyons vers la fin, Jonas qui a pitié de ce petit ricin qui est né de la volonté de Dieu en une nuit et qui est mort de la volonté de Dieu en aussi peu de temps. Et Dieu lui dit quand même, oui, mais bon, tout est affaire de proportion. Tu vas pas me faire toute une crise pour ce petit ricin quand tu m'en as fait une parce que j'ai sauvé 120 000 personnes. Et là, je crois que là aussi, ça rejoint notre société où quand même la proportionnalité est fort mal respectée. Excusez-moi, on parlait des animaux tout à l'heure, mais je suis parfois effrayé de... Bon, c'est très bien de vouloir prendre la défense des animaux. Je suis vraiment contre le... On n'a pas le droit de faire du mal même aux animaux, là, je suis d'accord. Mais tout de même... je sais pas, un acteur célèbre qui dit qu'il préfère la compagnie des chiens à celle des hommes et des femmes, moi je trouve pas très bien de propager des idées pareilles. Ou une autre actrice non moins célèbre prendre toutes les causes de tous les animaux de la terre et dire qu'en même temps on peut mettre les étrangers à la mer ou je ne sais quoi. Je trouve que notre société a tort de tout mélanger comme ça et tout mettre au même niveau. Je ne crois pas que même un petit Yorkshire vaille pour moi c'est pas Amnesty International, enfin je veux dire il y a des causes qui méritent plus d'attention que d'autres et il faut pas tout mélanger. Et je crois que quand on met tout au même niveau, eh bien c'est l'homme qui est perdant. Même toutes ces philosophies animalistes qui nous mettent tous au même niveau, je crois pas que Jonas... il me semble que la conclusion que Dieu fait tirer à Jonas ne va pas dans ce sens-là.
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que, comme souvent dans l'Évangile, Dieu cherche, dans sa pédagogie, comme tu disais, faire avancer Jonas en lui posant des questions. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il pose des questions, des questions, et ça, je crois que c'est bien de se poser des questions, c'est comme ça qu'on avance. Et... je crois que là, cette question-là, c'est quand même une vraie bonne question. Quand face à l'existence, on se désespère, on se préoccupe, voilà, est-ce que c'est vraiment la peine ? Est-ce que c'est vraiment la peine de s'irriter pour ça ? Et face en particulier à ces suicides, on voit le nombre de jeunes, c'est-à-dire maintenant qu'on a progressé sur les accidents de la route, le suicide est largement une des premières causes de mort chez les jeunes. Mais, je veux dire, ça fait quand même pitié, parce que est-ce que vraiment il peut y avoir une seule bonne raison de vouloir la mort, comme ce pauvre Jonas, une bonne raison. Je veux dire, c'est vraiment, il faut remettre les choses en perspective. Non, c'est pas, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on se préoccupe pour des tout petites choses. Il faut voir d'abord la beauté de la vie, si vous voulez. Quand on s'attache à l'essentiel, quand on s'attache à cette profonde valeur de l'existence, de la merveille que nous sommes, de personnalité, de ce trésor, de tout un tas de rencontres, de souvenirs, de rêves, de potentiels, on est une merveille telle que... Vraiment, rien ne mérite qu'on brise ça délibérément, volontairement. Ça ne mérite pas qu'on s'irrite. Et puis, je trouve que là, dans la pédagogie de Dieu, il lui dit, voilà, tu te mets en peine pour pour une petite chose comme le ricin. Alors, on pourrait dire parce qu'il y a une remise en question d'un avantage acquis, si vous voulez. Alors, c'est toujours un drame, hein, quand on remet en cause les avantages acquis depuis longtemps de haute lutte. C'est toujours un drame. Mais est-ce que vraiment ça vaut la peine de se désespérer alors qu'il y a tant de besoins? J'allais dire, des gens, ils sont désespérés pour je ne sais pas quoi, quel sens à ma vie. Tu dis, aller faire du soutien scolaire auprès des enfants qui n'ont pas de parents pour les aider, aller aider les grands-mères... à ramener leurs courses du supermarché parce qu'elles s'en sortent pas, aller tenir compagnie à quelqu'un qui est dans un hôpital. Je sais pas, il y a 1 million de choses qui sont utiles à faire. Ramasser des papiers gras dans le bois de Boulogne, vous ramassez un sac en plastique plein de papiers gras, vous avez déjà embelli l'univers. Il y a 1000 choses à faire, toutes simples, pour embellir l'univers, pour avoir fait quelque chose d'utile de sa journée. Donc ça, je crois qu'on peut avoir ce regard. Et puis ensuite, il le met à la place, voyez, et moi, à la fin de ce texte. Je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes, 120 000 hommes qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Donc vous voyez, il essaye de se dire, de le mettre à la place de Dieu, de lui donner le regard de Dieu, cette tendresse de Dieu pour les humains, de se mettre à la place de ces humains, se mettre à la place des autres, imaginer, voilà, un changement de regard, un changement de perspective. Et donc là, on n'est plus, si vous voulez, dans une conversion par la crainte. Au début, Jonas, quand il est parti faire le job, c'était quand même par crainte de Dieu. Mais finalement, là, il y a un essai de pédagogie de Dieu pour le faire réfléchir, changer son regard et lui rendre tout d'un coup comprendre finalement qu'il y a des choses à faire et que ce n'est pas par crainte qu'on le fait, mais c'est parce que c'est bon et c'est beau de le faire et que ça vaut la peine et que là il y a un beau projet et que c'est important. Et là je trouve que dans ce qu'il dit c'est beau, c'est la tendresse d'une mère pour ses enfants finalement, voyez. C'est pas au mérite des Ninivites, ils savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, donc c'est vraiment c'est 120 000 enfants, 120 000 débiles mentaux si vous voulez, c'est 120 000 personnes qui sont incapables de réfléchir ou même de prier Dieu, si vous voulez. C'est pas la question, voyez, de là, à ce niveau-là, cet amour de Dieu, c'est un amour d'une mère pour son bébé, voilà. Le bébé, il n'est pas très performant non plus, le nourrisson. Il y a cet amour de la mère pour son nourrisson, et voilà, il y a Dieu qui aime, bien sûr, chacun de ses enfants, et puis même les animaux, bien sûr, ça en mérite aussi. Et aujourd'hui, on peut avoir cette attention aussi pour la création entière et pour essayer de faire avancer, de protéger, d'aimer la vie. Et c'est finalement, je crois qu'il y a là une pédagogie qui nous permet d'avoir le regard qui aime, le regard qui vient de Dieu. Je ne sais pas, je crois que c'est une pédagogie du cœur, c'est pas... on n'est plus dans la menace, dans la crainte, mais Dieu cherche à aller au-delà de cette conversion-là pour aller à un changement du regard.
Oui, tout à fait. Et y a une autre idée, là encore. Je lisais une évocation de Ninive aujourd'hui face à Mossoul. Et en fait, on se rend compte que Mossoul reçoit des pèlerins juifs, chrétiens et musulmans. C'est intéressant pour aujourd'hui, parce que, j'allais dire, tous, la Bible et Coran, évoque le souvenir de ce prophète qui a marqué les lieux. Alors, il faut savoir que, par exemple, si vous allez... Enfin, c'est difficile d'y aller actuellement, hein, mais si vous allez à Mossoul, on va vous montrer une petite colline où Jonas fut abrité par le ricin. Et plus loin encore, une piscine, la fontaine de Damla Madja. Et selon la tradition locale, bien entendu, c'est là qu'il venait boire. Et certaines légendes disent que c'est là que le poisson l'a craché. Et de nombreux pèlerins musulmans, aujourd'hui, viennent y poser des ex-voto et implorer sa protection. Et de la même façon, dans les mêmes lieux, hein, il y a des dominicains qui sont toujours présents, hein, actuellement là-bas. Et 3 semaines avant le carême, tous les chrétiens de Mossoul commémorent le jeûne de Ninive par 3 jours de privation. Vous voyez, alors, ils font presque Ramadan. Vous voyez, c'est intéressant. Et il y a un nom chaldéen, Baouta, qui signifie prière intense de demande. Et dans la plaine de Mossoul et dans tous les villages du Kurdistan et même jusqu'à Bagdad, on se réfère à Jonas. Et pendant ces 3 jours, tout le livre de Jonas est chanté solennellement, ainsi que des hymnes de Saint-Éphrem et de Narsaï, qui commentent la pénitence des Ninivites. Et là, tout le monde se tient sur le béma, la tribune liturgique, pieds nus, à jeun. C'est un temps privilégié de réconciliation. Et je lisais également un commentaire hébraïque de Jonas, et je me suis rendu compte que c'est le texte qui est intégralement lu, le Yom Kippour, le jour du pardon. Parce que, précisément, il y a cette réconciliation inattendue qui dépasse toutes les attentes et toutes les demandes humaines. Et je crois que ce souvenir que, ben voilà, ce Jonas, ce personnage vraiment étonnant, a marqué aujourd'hui encore fortement une tradition juive, une tradition chrétienne et une tradition musulmane, et ben ma foi, je crois qu'il y a pire comme exemple, et je crois qu'il faut s'en souvenir, peut-être pour des partages futurs qui dépasseront notre œcuménisme pour aller vers un interreligieux dont le monde a de plus en plus besoin. Je crois que c'est une belle façon de terminer avec Ninive, qui a quand même bien disparu sous les sables, mais voilà, il faut s'en souvenir.
Alors on se retrouve la prochaine fois à Saint-Eustache, en fait, pour aller à Athènes avec cette prédication là qui va être beaucoup moins efficace de Paul à Athènes que celle de Jonas à Ninive, parce qu'il rencontrera un succès très mitigé. Donc c'est le mercredi 4 mai à 20h30 de l'impasse Saint-Eustache.
Alors, je rajoute simplement, j'en profite pour vous dire que vous êtes tous cordialement et chaleureusement invités. Il y aura également un cocktail de fin d'année, voilà, parce que c'est la fin de ces cités bibliques et que ça sera bien que, à la suite du discours d'Athènes, eh bien, nous nous retrouvions sur le forum en salle des colonnes autour d'un verre pour poursuivre la conversation. Donc, prévoyez votre soirée. La journée sera d'autant plus longue qu'il fera encore jour tard, n'ayez crainte et venez nombreux, amenez tous vos amis, et donc rendez-vous au mois prochain, et très joyeuse et belle Pâques à tout le monde.
Oui. Merci beaucoup à vous tous.